Il existe pas mal de livres qui parlent de l'au-delà, de l'enfer et surtout du royaume de Dieu, ainsi que des films qui décrivent ces lieux par des images qui suscitent de fortes sensations. Que ce soit des écrivains ou des metteurs en scène, la plupart d'entre eux ne cachent pas que leur réalisation est une fiction. Par contre, il en est d'autres qui prétendent nous informer sur ce qui nous attend de l'autre côté. Les livres, les films, les émissions qui ont pour thème l'au-delà semblent toujours être basés sur des expériences vécues ou sur une tradition. En d'autres mots, ce ne sont pas des sources d'informations fiables. Par contre, et même si elles ne satisfont pas toute ma curiosité et ne répondent pas à toutes mes questions, les Écritures nous donnent des renseignements sûrs. C'est du solide et aucun livre n'est aussi révélateur de l'au-delà que l'Apocalypse. Je finis maintenant de lire le chapitre 4. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui siège sur le trône et adorent celui qui vit éternellement. Ils posent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, Seigneur, notre Dieu, qu'on te donne gloire, honneur et puissance, car tu as créé tout ce qui existe. L'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. » Nous sommes dans le premier oratorio de louange et d'adoration, qui rend gloire à Dieu parce qu'il est le créateur de tout ce qui existe. Non seulement les 24 anciens se prosternent devant Dieu, mais ils y jettent également leur couronne devant son trône. Ils ne soucient pas d'eux-mêmes, de leur honneur ou de récompense. Toutes ces valeurs si chères aux hommes perdent leurs attraits et leur sens devant la majesté de Dieu. Certains croyants recevront bien une couronne pour service rendu au Seigneur, pour leur consécration et leur endurance face à l'adversité. Dans un premier temps, ils l'accepteront avec joie et reconnaissance. Mais il est probable qu'ils voudront vite s'en débarrasser, parce que le seul être digne à porter une couronne est Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jean voit les 24 anciens représentants de l'Église déposer leur couronne devant le trône céleste. Les quatre êtres vivants ont commencé à rendre gloire à Dieu pour ses attributs, pour qui il est. Les anciens ajoutent leurs propres notes à ce cantique et adorent Dieu en disant « Tu es digne » en tant que créateur. Au premier siècle, le mot pour « digne » est adressé à l'empereur quand il prend part à un cortège triomphal. Ici, Dieu est digne de recevoir gloire, honneur et puissance, parce qu'il est l'auteur de tout ce qui existe. Il faut remarquer que c'est Dieu qui est honoré, loué et glorifié. Il s'agit de Dieu le Père ou du Dieu en trois personnes. Dans d'autres passages des Écritures, c'est Dieu le Fils qui est reconnu comme l'auteur de la création. Mais peu importe, que ce soit le Père, le Fils ou le Saint-Esprit, car de toute façon, chaque fois que l'une des personnes de la Trinité agit, les deux autres sont impliquées. De notre point de vue, les trois personnes semblent interchangeables, même si dans la réalité divine, ce n'est pas le cas. L'oratorio de louange des habitants du ciel et la déclaration de la dignité de Dieu servent de préambule au châtiment que le Seigneur va infliger au monde afin de juger Satan, les démons et les hommes impies, et reprendre possession de sa création pour la donner aux croyants. En effet, ces derniers en sont les héritiers légitimes parce que, ayant été adoptés par Dieu, ils ont reçu le statut légal de fils de Dieu. À ce sujet, dans son épître aux Romains, l'apôtre Paul écrit « C'est cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir, car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Il lui a toutefois donné une espérance, c'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servi pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous arrivons maintenant au chapitre 5 de l'Apocalypse, ce qui veut dire que les événements de la fin des temps sont sur le point de se déclencher. Tout au long de l'histoire de l'humanité, le monde n'a pas manqué de conquérants qui ont voulu occuper le trône de ce monde. Le premier et le plus puissant de ces usurpateurs est Satan. Après son coup d'État manqué contre Dieu, il devient le Dieu de ce monde, comme l'appelle Paul dans sa seconde épître aux Corinthiens. Et en fait que tel, il a incité de nombreux hommes à tenter de se rendre maître du monde. La liste est longue et n'est pas terminée. Le dernier à prétendre à ce poste sera l'Antichrist. Mais comme tous ses prédécesseurs, il échouera. Car un seul a le droit, le pouvoir et l'autorité de régner sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ. Il reprendra un jour à Satan l'usurpateur, ce qui lui appartient. Personne d'autre n'est digne ou capable de faire régner la justice en ce bas monde. C'est Jésus-Christ qui est au centre de la vision du ciel que j'en reçois. Les événements du chapitre 5 font directement suite à ceux du chapitre 4. L'apôtre Jean est toujours devant le trône de Dieu, entouré des 15 êtres vivants et des 24 anciens qui représentent l'Église enlevée et glorifiée. Je commence de lire le chapitre 5. Alors je vis, dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône, un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Il était scellé de sept sceaux. Le mot traduit par livre a donné Bible en français, mais il ne correspond pas à ce qu'on appelle aujourd'hui un livre, c'est plutôt un parchemin en papyrus ou en peau tannée qu'on roule à partir des extrémités jusqu'en son milieu. Qu'il soit écrit recto verso n'a rien d'extraordinaire, car dans l'Antiquité, les supports d'écriture étant particulièrement onéreux, on ne gaspille pas la place. Les fouilles archéologiques ont mis à jour bon nombre de documents écrits à l'intérieur et à l'extérieur. Sur le parchemin que voit Jean, sont apposés sept sceaux, qui doivent être brisés un à un afin de pouvoir le dérouler. Il y en a sept, le nombre de la perfection, parce que dans l'Apocalypse, le chiffre sept, que ce soit en nombre ou en événement consécutif, est très fréquent. Par ailleurs, ce chiffre sept revient aussi dans les lois romaines. Un testament, du moins, celui des gens importants, doit être scellé cette fois. Et on sait qu'il en est ainsi pour les dernières volontés des empereurs César Auguste et Vespasien. De plus, à partir du règne de Néron, les transactions entre individus, comme lors d'un mariage, d'une location, d'une libération d'esclaves, d'un emprunt ou d'un paiement de dette, sont écrites à l'intérieur d'un rouleau qui est ensuite scellé sept fois. Puis, à l'extérieur, on rédige les clauses principales du contrat. Dans l'Israël ancien, le titre de propriété d'un bien est à peu près conçu de la même manière. Ce que nous révèle le prophète Jérémie quand l'Éternel lui demande d'acheter un champ pour montrer que l'occupation de Juda par les Babyloniens ne sera pas permanente. Je lis le passage. J'achetai donc à mon cousin Anamiel le champ, et je lui en payai le prix de 17 pièces d'argent. Je rédigeai l'acte de vente, j'y mis mon sceau en présence des témoins que j'avais convoqués. Puis je pesai l'argent sur une balance. Ensuite, je pris l'acte de vente qui était scellé, où figuraient la stipulation et les clauses de la transaction, ainsi que l'exemplaire qui était ouvert. Ce rouleau que voit Jean aiguise notre curiosité, et on se demande ce qui peut bien être décrit dessus. étant donné que Dieu va juger le monde. Certains pensent que c'est le livre du destin qui contient le plan de Dieu. Effectivement, les différentes phases du jugement se réaliseront au fur et à mesure que les sceaux sont brisés. Cependant, au regard des prophètes de Daniel, ce rouleau est d'abord le titre de propriété du monde. Daniel écrit « Je regardais encore dans mes visions nocturnes. Sur les nuées du ciel, je vis venir quelqu'un, semblable à un fils d'homme. Il s'avança jusqu'au vieillard âgé de nombreux jours, et on le fit approcher devant lui. On lui donna la souveraineté et la gloire et la royauté, et tous les peuples, toutes les nations, les hommes de toutes les langues lui apportèrent leur hommage. Sa souveraineté est éternelle, elle ne passera jamais. Et quant à son royaume, il ne sera jamais détruit. » Le titre de propriété de ce monde appartient de droit à Jésus-Christ, et cela deux fois. Premièrement, parce qu'il est le Créateur de l'univers, et deuxièmement, parce qu'il est le Rédempteur de la race humaine. Cela dit, il est tout à fait possible que ce rouleau contienne également la liste des jugements qui vont frapper la terre, châtiments au moyen desquels le Seigneur va reprendre son héritage. En effet, il semble que le prophète Ézéchiel ait lui aussi vu ce rouleau, puisqu'il écrit « Je regardais, et je vis une main tendue vers moi qui tenait un livre en forme de rouleau. Elle le déroula devant moi. Il était couvert d'inscriptions au recto et au verso. C'était des plaintes et des lamentations et des cris de malheur. » Maintenant qu'on croit savoir ce qui est écrit sur ce rouleau, il faut aussi dire que la vision de Jean ne nous révèle jamais son contenu, car même après la rupture du septième sceau, on ne sait toujours pas exactement ce qui est écrit. Cependant, ce qui est important n'est pas le contenu du rouleau, mais son rapport avec Jésus, l'agneau égorgé. La vision souligne en effet que lui seul est digne et possède l'autorité nécessaire pour ouvrir les sceaux et exécuter les jugements. Ce rouleau est symbolique, mais comme les trônes, il existe pendant le temps de la vision de Jean. Je continue le texte. « Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» C'est la première fois qu'on entend une voix forte, mais cela se reproduira encore 19 fois. Cet ange n'est pas nommé, mais il est puissant, car sa voix porte sa proclamation jusqu'aux extrémités de l'univers, au ciel, sur la terre et sous la terre. Il est à la recherche de quelqu'un qui est à la fois digne, capable et a le droit de rompre les sceaux du livre et donc de l'ouvrir. Il demande « Qui a le pouvoir de triompher de Satan et de ses ordres démoniaques et de lever la malédiction qui pèse sur la terre ?» Je continue. « Mais personne, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir le livre ni de le lire. Je me mis à pleurer abondamment parce qu'on ne trouvait personne qui fût digne d'ouvrir le livre et de le lire. » Alors que l'écho de la voix forte de l'ange s'estompe, un silence lourd s'installe, car personne n'a répondu à l'appel, ni un ange, ni même un homme juste parmi les saints. Si aucun être dans l'univers n'a le pouvoir et le droit d'ouvrir le livre, l'avenir éternel de l'humanité est compromis. La tension dramatique du moment accable profondément l'apôtre Jean, qui assez curieusement est désemparé et fond en larmes. De toute évidence, bien qu'il soit dans le royaume de Dieu, Jean est encore un homme ordinaire. Un commentateur explique à sa façon la signification de ses larmes. Il écrit « Les larmes de Jean représentent les larmes de tout le peuple de Dieu versées au fil des siècles. Ces larmes sont celles d'Adam et Ève qu'ils ont versées lorsqu'ils ont été chassés du jardin d'Éden, quand ils se sont penchés sur la toute première tombe, arrosant le sol poussiéreux de leurs larmes en regardant le corps silencieux et immobile de leur fils Abel. Ce sont les larmes des enfants d'Israël en esclavage lorsqu'ils ont crié à Dieu sous la fiction d'être asservis. Ce sont les larmes que les élus de Dieu ont versées au fil des siècles en implorant les cieux. Ce sont les sanglots et les larmes qui ont été arrachés au cœur et à l'âme des enfants de Dieu lorsqu'ils regardent leurs morts qui sont entrés dans le royaume du silence. Quand ils se tiennent devant leur tombe ouverte, lorsqu'ils subissent les épreuves et les souffrances de la vie, des douleurs et des déceptions indescriptibles. Voilà la malédiction que le péché a attiré sur la magnifique création de Dieu. Et c'est le moment de la condamnation de la main de celui qui retient la création captive, cet usurpateur, cet intrus, cet étranger, ce dragon, ce serpent, ce Satan, ce malin. Si j'en pleure abondamment, c'est parce qu'on ne semble pas trouver un rédempteur pour racheter le genre humain. Les conséquences seront alors des plus dramatiques, car cette terre maudite le restera éternellement. La mort et le péché, la malédiction et la damnation régneront à jamais, et la souveraineté de ce monde restera pour toujours entre les mains du diable. De toute évidence, Jean pleure parce qu'il veut voir le monde débarrassé du mal, du péché et de la mort. Il souhaite voir Satan vaincu et le royaume de Dieu établi sur terre. Il veut voir Israël sauvé et Christ exalté. Ce que Jean est en train de vivre peut être apparenté au rêve, mais en ce moment c'est plutôt un cauchemar. Il ne contrôle pas la vision ou ses émotions. Il vit l'instant, ce qui veut dire qu'il a oublié autant les tragédies qu'il a vécues que la rédemption accomplie par Christ sur la croix, afin que ses paroles rassurantes qu'il a pourtant consignées dans son évangile. Il est très étrange que Jean ne se souvienne plus que le Messie a été exécuté, que Jérusalem a été détruite, que le peuple juif a été massacré et dispersé, que l'Église fait face à la haine et à la persécution, et qu'elle est infestée par le péché. Il a oublié que le Messie a vaincu la mort, qu'il est ressuscité et qu'il a fait d'innombrables promesses qui reposent sur la fidélité de Dieu. L'amnésie de Jean signifie-t-elle qu'une fois au ciel, on oublie tout ce qu'on a vécu sur terre? Peut-être bien. Je continue le texte. Alors l'un des vieillards me dit, « Ne pleure pas. Voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David. Pour ouvrir le livre, et cessez de sceaux. » L'un des 24 anciens ou vieillards intervint et dirige l'attention de Jean vers le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David. Il s'agit évidemment du Seigneur Jésus-Christ, mais il semble que c'est première nouvelle pour l'apôtre Jean. Le lion de la tribu de Juda est l'un des titres du Messie. Quand, avant de mourir, le patriarche Jacob bénit ses fils, dans le livre de la Genèse, on lit qu'il dit « Oui, Juda est un jeune lion. Mon fils, tu reviens de la chasse. » Et tu t'es accroupi et couché comme un lion, comme une lionne. Qui te fera lever? Le sceptre ne s'écartera pas de Juda, et l'insigne de chef ne sera pas ôté d'entre ses mains, jusqu'à la venue de celui auquel ils appartiennent, et à qui tous les peuples rendront obéissance. À l'époque de Jésus, les Juifs attendent un Messie tout-puissant qui les délivrera de la main pesante des Romains, leur oppresseur. Le Seigneur est alors prêt à leur offrir le royaume, mais les Juifs doivent d'abord se repentir et l'accepter comme roi. Ils refusent, et comme Jésus ne satisfait pas leurs revendications politiques, ils le rejettent et le font assassiner. Suite à ce crime, après sa mort et résurrection, Jésus remplace Israël par l'Église qui devient le nouveau peuple de Dieu et un royaume spirituel. Cependant, le Messie est toujours un lion, et il déchirera ses ennemis le jour qu'il a lui-même choisi, et qui répond à son propre planning et non pas à celui des hommes. Deuxièmement, Jésus est appelé le rejeton de la racine de David, un autre titre messianique qu'on trouve dans le livre d'Isaïe qui écrit « Un rameau poussera du tronc d'Ésaïe, un rejeton naîtra de ses racines et portera du fruit. Il adviendra, en ce jour-là, que le descendant d'Ésaïe se dressera comme un étendard pour les peuples, et toutes les nations se tourneront vers lui, et le lieu où il se tiendra resplendira de gloire. » Selon les généalogies que nous donnent Matthieu et Luc, Jésus descend de David à la fois par sa mère et son père adoptif. Il est donc bien de la postérité de David selon la chair, comme l'écrit d'ailleurs l'apôtre Paul dans son épître aux Romains. Jésus est digne de prendre le rouleau en raison de qui il est. Le roi légitime issu de la racine de David, le lion de la tribu de Juda. Jésus est également habilité à ouvrir le livre à cause de ce qu'il a fait. Il a remporté la victoire sur la croix. Par son sacrifice, il a triomphé du péché, de la mort et de toutes les forces du mal. Il est aussi devenu le rédempteur des hommes, mais aussi de la terre et de toute la création. Celui qui est digne entend la voix forte de l'ange et il vient pour reprendre ce qui lui revient de droit. Mais Jean est soudainement interloqué. Tandis qu'il contemple la scène incroyable qui se déroule devant ses yeux, le reflet radieux éclatant de la gloire de Dieu émanant du trône, l'arc-en-ciel d'un vert brillant qui l'entoure, la dalle de cristal scintillante sur laquelle il repose, les éclairs et la foudre, l'adoration des quatre êtres vivants et des 24 anciens, son attention est attirée par ce qu'il voit au milieu du trône. Au lieu de trouver le puissant lion de la tribu de Juda, le roi héritier de David, qui est le maître de tout, Jean y voit un agneau. Il écrit « Alors je vis, au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. » Il s'agit de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, comme le dit Jean-Baptiste et comme l'écrit Jean dans son évangile.